Chapitre 6. Répondre aux questions. Nous sommes seuls sur scène. La conférence s'est bien passée. Les auditeurs ont écouté attentivement. Nos traits d'esprit ont fait mouche. La conclusion a été vivement applaudie. À l'invitation du présentateur, nous prenons place sur le fauteuil qui nous a été réservé pour la dernière séquence de la soirée, un échange avec le public. Quelques mains se lèvent, timides. Les premières questions fusent, nous y répondons avec allant. En profitons pour glisser quelques précisions auxquelles nous avions dû renoncer dans notre présentation, faute de temps. Quand, soudain, tout bascule. Un individu obtient la parole. Manifestement, il connaît bien le sujet, n'apprécie pas la manière dont nous l'avons traité et nous le fait remarquer. Il enchaîne les critiques, puis se rassied. Tous les regards sont désormais braqués sur nous. Une goutte de sueur dégouline le long de notre cou. Il va bien falloir répondre. Mais comment ? Cette scène, toutes les oratrices et tous les orateurs en ont fait le cauchemar. Lorsque nous devons prendre la parole, bien sûr, nous craignons de n'être pas assez bons, de bafouiller, d'avoir un trou. Avec l'expérience, ces angoisses s'atténuent. Nous prenons progressivement confiance en notre capacité à préparer et prononcer une intervention. Encore nous reste-t-il à survivre à la séance de questions. C'est elle, souvent, que nous appréhendons. Nous avons peur d'être contestés, malmenés ou, pire, attrapés en flagrant délit d'ignorance. Le public nous apparaît comme un peloton silencieux d'où, à n'importe quel moment, un coup de feu pourrait venir nous foudroyer. Rassurons-nous, cependant. Comme pour toute situation rhétorique, il existe des techniques sur lesquelles nous allons pouvoir nous reposer. Que nous nous trouvions dans le cadre d'une conférence, d'une présentation en réunion, d'un entretien face à plusieurs examinateurs, voire d'une interview, notre premier enjeu sera de parvenir à identifier les questions dangereuses, celles qui, précisément, appellent une réponse stratégique. 1. Identifier les questions dangereuses. Remarquons tout d'abord qu'une séance de questions est un exercice hybride. Ce n'est ni une conversation ni un débat, puisque la répartition de la parole y est gravement déséquilibrée. Ce n'est pas non plus un discours, puisque nous interagissons en permanence avec des interlocuteurs. Dans ce contexte particulier, les questions susceptibles de nous mettre en danger peuvent prendre deux formes très différentes, selon qu'elle relève de la malveillance ou nous confronte à notre ignorance. Commençons par les questions malveillantes, celles qui visent intentionnellement à nous faire trébucher. Leurs auteurs ne souhaitent nullement obtenir un surcroît d'informations, mais bien nous ridiculiser. D'un point de vue théorique, ces interactions ne posent pas de difficultés particulières. Elles se rapprochent en réalité d'un affrontement contradictoire. Toutes les stratégies que nous venons d'examiner s'appliquent donc et peuvent être utilisées pour triompher. Nous disposons même d'atouts supplémentaires qui découlent justement du caractère asymétrique de la situation. Pour peu que nous ayons réussi à nous rendre sympathiques durant notre intervention, le public aura tendance à se mettre spontanément de notre côté s'il perçoit une volonté caractérisée de nous nuire. Nous pourrons nous en servir pour forger notre réponse, par exemple en utilisant l'ironie. Les rieurs ne manqueront pas de se joindre à nous. Il y a peu de chances de toute façon que nous soyons sérieusement menacés puisque, la plupart du temps, notre interlocuteur aura peu l'occasion de réagir à ce que nous répondrons. Si d'aventure il demeurait agrippé au micro, revenant sans cesse à la charge, nous serons généralement en mesure de couper court. « Écoutez, je crois avoir déjà répondu, et vous n'êtes pas tout seul, cher monsieur. D'autres personnes veulent intervenir, nous allons leur donner la parole. » Question suivante. Enfin, et surtout, souvenons-nous que ce genre de mésaventure reste extrêmement rare. L'immense majorité des oratrices et des orateurs ne rencontreront dans leur carrière qu'une poignée d'auditeurs qui se comporteront en adversaires. Si cela nous arrivait plus souvent, sans que l'on cherche à cliver ou provoquer volontairement, nous devrions commencer à nous remettre en question. C'est peut-être notre éthos qui suscite de l'irritation. Nous serons beaucoup plus fréquemment confrontés, en revanche, au deuxième type de questions délicates, celles auxquelles nous ne pouvons pas répondre, soit par ignorance, soit parce que nous nous mettrions en danger. Dans l'immense majorité des cas, ces questions délicates n'auront rien de menaçant tant que nous acceptons d'être honnêtes. Nous nous contenterons de confesser les frontières de notre savoir. Merci pour cette question pertinente. Je vous avoue qu'elle est un peu loin de mon domaine d'expertise. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je préfère la laisser de côté. Ou de poser nos limites en toute clarté. Écoutez, je comprends que vous me demandiez cela, mais je préfère éviter de parler de politique. Si vous le voulez bien, je vous propose de passer à la question suivante. Il suffit que, dans notre intervention, nous soyons parvenus à imposer notre éthos de compétence et de sincérité pour que ces réponses soient acceptées en toute sérénité. Dans l'immense majorité des cas, c'est la transparence qui sera notre meilleure arme. Il arrivera toutefois que la clarté ne soit pas une option. Il existe certaines questions auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire. Avouer notre ignorance ou notre manque de conviction risquerait de nous disqualifier sur le champ. Il se peut également que nous ayons intérêt à l'ambiguïté. Répondre sincèrement risquerait de nous aliéner une partie de nos auditeurs alors que nous avons besoin de tous les soutiens possibles. Dans une telle situation, il faudra donner l'impression de répondre sans le faire réellement. Ne pas être accusé d'avoir esquivé, mais ne pas nous mettre en danger. C'est ici que nous aurons besoin de stratégie. Heureusement, nous avons à notre disposition deux outils, le cadrage et le contournement. 2. Maîtriser le temps, les stratégies de cadrage. La première erreur face à une question difficile serait de réagir de but en blanc. Pris de court, nous risquerions de dire une énormité. Or, nous ne sommes pas dans un jeu télévisé. Rien ne nous contraint à répondre dans l'instant. Reprenons donc la maîtrise du temps et choisissons notre rythme, de préférence en éloignant le plus possible notre véritable réponse de la question qui nous a été posée. En tant qu'oratrice ou orateur, introduire un délai présente un double intérêt. Le premier et le plus évident, c'est que cela nous donnera l'occasion de réfléchir. Nous pourrons ainsi évaluer le péril qu'une réponse sincère nous ferait courir et, au besoin, prendre le temps d'élaborer une solution pour nous sortir du pétrin. Mais surtout, le second intérêt, c'est que plus nous répondrons tard, et moins les auditeurs se souviendront de la question avec précision. Quelques secondes suffisent en effet pour que les informations commencent à se détériorer dans notre cerveau. Plus nous délaierons, et plus nous disposerons de marge de manœuvre pour choisir la réponse qui nous convient le mieux. Nous y reviendrons. Encore faut-il savoir comment faire, car nous n'allons évidemment pas pouvoir attendre sans rien dire. La manœuvre serait un peu trop criante et terriblement gênante. Pour gagner du temps, avant de répondre, nous allons donc commencer par donner des éléments de cadrage. Il s'agit d'informations qui, bien que directement liées au sujet, n'apportent absolument rien sur le fond. Nous pouvons ainsi les divulguer sans prendre le moindre risque. Nos auditeurs ne seront pas dupes. Ils verront bien que nous ne sommes pas encore en train de répondre. Mais ils pourront difficilement nous reprocher d'avoir voulu commencer en rappelant d'innocentes précisions. Nous avons à notre disposition trois types de cadrage différents. Nous pouvons opter tout d'abord pour un cadrage général. Avant de répondre, nous montons en généralité afin de dégager les grands enjeux politiques, voire philosophiques, qui sont impliqués par la question, quand bien même ensuite nous n'y reviendrions jamais. Nous pouvons également choisir de déployer un cadrage contextuel. Nous faisons mine d'être obligés de rappeler, en premier lieu, des informations ou des faits liés au sujet, quand bien même, après coup, ils se révéleraient totalement inutiles à notre démonstration. Enfin, nous avons également la possibilité d'utiliser un cadrage anecdotique. La question vient soudain de nous évoquer une histoire que nous ne pouvons pas nous empêcher de raconter, quand bien même cela se révélerait a posteriori n'avoir aucun intérêt. Bien sûr, nous pouvons utiliser chacun de ces trois cadrages pour glisser des éléments qui nous seront réellement utiles pour articuler notre réponse. Mais même si cela n'était pas le cas, nous aurons de toute façon gagné un temps précieux, c'est tout ce que nous voulions. Étude de cas. Candidat à l'élection présidentielle, je suis interviewé sur une grande radio. En face de moi, la journaliste passe en revue les principaux thèmes de l'actualité. Je ne me sens pas menacé. Cette dernière question, toutefois, est plus délicate. Il y a 2 ans, notre pays a été frappé par 2 terribles attentats. Depuis, nous vivons toujours sous un dispositif d'état d'urgence. Si vous êtes élu président, est-ce que vous prendrez la décision de sortir de ce régime juridique qui avait été conçu, rappelons-le, pour être l'exception et non la norme? Je suis piégé. Si je me prononce pour la fin de l'état d'urgence, je pourrais être accusé de laxisme à l'égard du terrorisme. Mais si je me déclare favorable à un maintien du dispositif, on risque de fustiger ma position liberticide. Dans un cas comme dans l'autre, je perdrai des électeurs. J'ai besoin de temps pour réfléchir, et je dois absolument éloigner de moi cette question redoutablement bien formulée. À cette fin, je peux commencer par un cadrage général. Vous avez raison, madame, d'évoquer les terribles attentats qui nous ont frappés il y a 2 ans. Il faut commencer par rappeler cette réalité dont nous devons tous avoir conscience. Nos sociétés démocratiques doivent désormais faire face à un ennemi invisible, le terrorisme, qui entend combattre notre mode de vie, nos valeurs et même notre civilisation. Je peux également utiliser un cadrage contextuel. Vous avez raison d'évoquer le régime d'état d'urgence. J'aimerais commencer par rappeler de quoi nous parlons. Plus de 4000 perquisitions en 2 ans, 700 assignations à résidence, 650 interdictions de séjour. Cela a été, sans le moindre doute, un outil crucial dans la lutte contre le terrorisme. Ou alors, je peux préférer un cadrage anecdotique. C'est en effet une question très importante, et je voudrais commencer par rendre hommage à nos forces de l'ordre, qui font un travail formidable. Vous savez, j'étais, pas plus tard que la semaine dernière, en visite dans un commissariat à Marseille. J'ai discuté longuement avec les policiers. Tous m'ont confié leur fierté d'être les protecteurs de la nation. Décryptage. Notons que, à chaque fois, nous avons commencé notre tour de parole par une discrète flatterie à l'endroit de notre interlocutrice. Ce n'est pas un hasard. Traité avec égard, voire gentillesse, il lui sera plus difficile de nous rudoyer quand elle comprendra que nous jouons la montre. Chacun de ces cadrages permettra en effet de gagner une 30aine de secondes sans que nous ayons seulement commencé à répondre à la question qui nous était posée. Nous en aurons profité en revanche pour renforcer notre éthos d'homme d'État. Quant à l'interrogation initiale, nul doute que, dans l'esprit des auditeurs, elle commence déjà à devenir floue. 3. Maîtriser l'espace, les stratégies de contournement. La pire erreur lorsque nous sommes confrontés à une question dangereuse serait de vouloir y répondre. Cela reviendrait à accepter de nous mettre dans l'embarras. Nous allons donc apporter une véritable réponse, mais à une autre question, à la fois légèrement différente et beaucoup plus facile, que nous aurons nous-mêmes choisi. C'est ce que l'on appelle un contournement. Voilà la raison pour laquelle il était si crucial de gagner du temps. Les auditeurs se souviendront du thème de la question, mais plus exactement de sa formulation. C'est l'opportunité que nous attendions. Nous allons pouvoir reprendre le contrôle de notre espace. Pour esquiver une interrogation difficile, nous pouvons utiliser quatre grandes stratégies de contournement. La première, c'est la prise de hauteur. Nous allons effectivement répondre à la question qui nous était posée, mais à un degré de généralité supérieur qui nous permet de formuler de grandes déclarations surplombantes avec lesquelles personne ne pourra être en désaccord. Nous avons déjà vu comment faire. Il nous suffit de convoquer un chapelet de concepts mobilisateurs. La deuxième stratégie, c'est le pas de côté. Nous parlons d'un tout autre sujet, suffisamment lié au premier pour que la transition paraisse naturelle, mais assez éloigné pour qu'il ne nous mette plus en danger. La troisième stratégie, c'est la focalisation. Nous plongeons à l'intérieur de la question qui nous était posée pour y répondre de manière précise, mais partielle, en laissant volontairement dans l'ombre tous les aspects qui nous plaçaient en difficulté. La dernière stratégie, c'est celle du champ contre champ. Elle consiste à donner consécutivement deux réponses incompatibles entre elles qui apporteront chacune satisfaction à une partie de notre auditoire. Nous disons en somme tout et son contraire. Ce dernier procédé pourrait sembler acrobatique. Il repose pourtant sur un biais cognitif amplement documenté, la tendance naturelle des êtres humains à retenir surtout les informations qui les confortent dans leurs opinions initiales, ce qui leur épargne d'avoir à changer d'avis. C'est ce que l'on appelle un biais de confirmation. Pour introduire ces stratégies, dès lors que nous avons pris soin d'éloigner la question initiale, une simple formule de transition suffit. Nous en avons quantité à notre disposition. Vous posez, au fond, le problème de... Votre question est intéressante, surtout si on la voit sous l'angle de... Pour moi, le véritable enjeu, c'est surtout... Voir si nous nous sentons particulièrement audacieux, je pense qu'il vaut mieux poser cette question autrement. Écoutez, je ne sais pas si cela répondra à votre question, mais ce que je peux vous dire, c'est que... Suite de l'étude de cas. Bien évidemment, l'intervieweuse n'est pas dupe. Elle voit bien que je suis en train de gagner du temps et s'apprête à me couper. Ce serait une catastrophe. Elle pourrait alors reposer sa question en ses propres termes et tous mes efforts seraient éventés. J'enchaîne donc en commençant par la rassurer. Mais je ne voudrais surtout pas laisser votre interrogation sans réponse. Toutes les options me sont désormais ouvertes. Je peux opérer une prise de hauteur. La question que vous posez, au fond, c'est celle de la sécurité de nos compatriotes. Elle est essentielle. Dans les 5 années qui viennent, il faudra redoubler d'efforts pour lutter contre le terrorisme, mais aussi contre la violence et la délinquance qui inquiètent à juste titre tous les Français, tout en continuant bien sûr de préserver ce que nous avons de plus précieux, nos libertés et notre état de droit. Je peux aussi faire un pas de côté. Pour moi, le véritable problème, c'est surtout le combat contre le djihadisme. Nous devons continuer de lutter contre tous les réseaux qui impulsent, financent et structurent le terrorisme international. Ce sera la seule solution pour durablement écarter les risques d'attentats sur notre sol. Si je sens que mon interlocutrice est particulièrement retorse et que je connais bien le sujet, je peux tenter une focalisation. Écoutez, vous me posez une question précise, je pense qu'il faut y répondre avec précision. L'état d'urgence nous protège. J'ai déjà rappelé le nombre d'assignations à résidence et d'interdictions de séjour qui ont été prononcées. Mais il faut aussi admettre qu'il existe des interrogations autour de certaines perquisitions qui n'étaient peut-être pas indispensables. Je proposerai donc, dans un premier temps, de renforcer les contrôles sur ce point afin de garantir pleinement les droits fondamentaux des citoyens. Enfin, je peux également tenter un champ contre champ. Vous savez, madame, il y a une chose avec laquelle on ne peut pas jouer en démocratie, ce sont les droits fondamentaux des citoyens. Nous ne pouvons pas accepter qu'un régime d'exception devienne la norme. Il faudra donc nécessairement, à l'avenir, envisager une sortie de l'état d'urgence. Et en même temps, la menace terroriste reste très élevée. Nous avons vu les horreurs auxquelles elle mène. Il y a autre chose qu'il nous faut protéger à tout prix, c'est la sécurité de nos concitoyens. À ce jour, l'état d'urgence contribue à assurer cette protection. Décryptage. Sortirons-nous de l'état d'urgence si nous sommes élus? Il est impossible de le savoir. Les auditeurs et la journaliste n'auront jamais obtenu la réponse à cette question. Cela ne nous aura pas empêché d'évoquer le sujet pendant plusieurs minutes. Aux yeux d'une personne peu attentive, nous pourrions être accusés de n'avoir pas été très précis, mais pas de nous être défaussés. C'est tout ce que nous souhaitions, non pas emporter la conviction, mais simplement éviter de diviser. En tant qu'auditrices ou auditeurs, enfin, que penser de tels stratagèmes? Si nous identifions qu'un acteur du débat public est en train d'esquiver habilement une question, devrons-nous lui réserver notre défiance, voire notre aversion? Tout dépendra en réalité de l'interrogation qui lui avait été soumise. Si elle le mettait réellement en danger, qu'il lui était impossible de répondre sans se compromettre, nous pourrions choisir de le comprendre. Admettre qu'à sa place, nous aurions probablement fait de même, tout en prenant, bien sûr, acte de l'esquive et en nous souvenant que, sur ce sujet, nous ne savons pas ce que cette personne pense. En revanche, nous pourrions être plus sévères dès lors que ces procédés sont utilisés par pure convenance. La question posée était justifiée et formulée honorablement. Quand bien même elle plaçait son destinataire en position de déplaire à une partie de l'auditoire, nous serions légitimement en droit d'attendre une réponse franche. Dans ce cas, l'utilisation de techniques de contournement pourrait attirer, de notre part, une dénonciation plus vive. Comme toujours en rhétorique, cependant, la frontière entre ces deux situations est tout sauf limpide. Nous ne disposerons jamais d'un critère irréfutable pour distinguer l'habileté de la déloyauté. Cette question est éthique plus que technique. En définitive, c'est à chacune et chacun d'entre nous qu'il appartient de choisir ce à quoi nous acceptons d'être exposés et ce que nous décidons de condamner.